Bon bah ça y est, voilà, j'ai plus de travail et là je prends un sac à dos et je pars dans 3 semaines en fait. Et moi je me dis, tu vas faire quoi? Je vais surfer. Mais tu vas faire quoi d'autre? Bah pour l'instant je vais juste surfer en fait.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia De Santis et toutes les 2 semaines, je vous invite à prendre un siège pour écouter ma conversation avec une femme inspirante sur son parcours de vie, mêlant développement personnel et voyage. Et comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager ma conversation avec Julie. Julie habite à Siargao, une île aux Philippines, et elle a tout plaqué pour le voyage, les vagues et l'écriture. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est sa bio Instagram. Julie, elle est rédactrice web ou copywriter, on dit comme on veut, à distance, complètement, pour ses clients qui sont donc en France, et elle est spécialisée dans des sujets qu'elle connaît bien, à savoir le surf, le nomadisme notamment. Mais elle ne fait pas que ça, elle a aussi monté des projets en side project, comme on dit, où en fait elle écrit des articles ou elle prépare des documentaires qu'elle va proposer à des magazines. Et à côté de ça, elle a aussi lancé une newsletter sur le surf. Julie organise sa vie pro en fonction des heures, des marées et de la qualité des houles. Ça veut dire qu'elle adapte son emploi du temps un maximum pour pouvoir faire ce qu'elle aime vraiment, surfer. Allez, avouez, ça vous fait aussi envie. En tout cas, moi oui. Avec Julie, on a parlé du besoin d'un retour à la nature, d'adapter sa vie professionnelle aux éléments naturels et non pas l'inverse, de refuser un job de rêve pour poursuivre son voyage, de la peur et de comment l'adopter pour en faire une force, et d'autres choses aussi comme l'argent, le copywriting et le futur. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Donc, bonjour Julie.
Salut Anastasia.
Merci d'avoir accepté mon invitation donc, pour partager ton témoignage sur De Vraie Vie. Donc Julie, tu as 33 ans aujourd'hui et tu voyages depuis 3 ans, mais tu ne fais pas que ça. Tu surfes aussi, tu crées et tu lances plein de projets. Et tu es freelance aussi, c'est ce que ouais. Tu me disais. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots donc, de ta vie d'avant, entre guillemets, donc d'où tu viens, tes études, ton travail, etc.
Oui, avec plaisir. Déjà, merci de ton invitation. Oui, comme je te disais, comme on avait échangé toutes les deux brièvement avant, moi, c'est une vraie, comment je peux dire ça, c'est une vraie, oui, motivation, une vraie joie, en fait, de partager les expériences que j'ai eues, parce que je me suis aperçue que ça pouvait aider certaines d'entre nous. Et donc, merci de m'avoir invitée et ravie de discuter avec toi pour ton joli projet de vraie vie. Et donc, du coup, oui, donc moi, j'ai commencé à voyager il y a à peu près 3 ans, donc la crise de la trentaine qu'on connaît tous.
Oui, c'est ça.
Et avant ça, j'ai eu un parcours assez classique. Hein. Je viens du sud-est de la France. Je suis née à Marseille, même si ça s'entend pas beaucoup.
D'accord. Et oui, carrément.
j'ai perdu mon accent, mais bon, il revient avec un peu de pastis
et quand je suis énervée.
Ouais, voilà, ça revient vite. Et donc, j'ai une enfance très heureuse sous le soleil calme et tranquille de la Provence. Et puis après, j'ai quitté la Provence pour rejoindre Paris. Et là, c'est parcours assez classique, c'est-à-dire école de commerce. Et puis, le premier stage, et puis la proposition d'embauche, et puis tu te retrouves aspiré dans une vie à 2000 à l'heure où finalement la carrière prend beaucoup de place et la vie sociale évidemment aussi, mais voilà, le travail prend beaucoup de place en fait à Paris, moi je trouve, enfin du moins moi c'était ouais. Mon expérience à moi. Et du coup, j'étais donc commerciale dans l'informatique. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'étais donc j'évoluais dans l'univers de la tech, digital, web et e-commerce. J'avais une spécialisation e-commerce. Et donc en fait, je travaillais dans ce qu'on appelle des SS2I ou des entreprises de services numériques aujourd'hui. Et je proposais des solutions pour des grands groupes ou des grandes marques, des solutions e-commerce en fait. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant presque 10 ans. C'était une expérience très formatrice. J'ai énormément appris sur sur le web, sur l'entrepreneuriat, sur les relations professionnelles, sur le management, parce que voilà, je devais gérer des projets avec des hommes, parce que c'est quand même 80% de l'univers de la tech, c'est quand même des hommes. Et c'était pas de tout repos.
En tant que femme, ouais.
En tant que femme, c'était pas de tout repos. Et en plus, en tant que femme qui n'a pas de casquette d'ingénieur, j'avais l'impression, du moins c'est comme ça que moi je l'ai vécu, j'avais l'impression que j'avais encore plus de choses à prouver en fait. Et c'était pas forcément facile tous les jours. Mais avec du recul et de la hauteur, j'ai vu que cette expérience, j'aurais pas pu faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui sans cette expérience. Donc c'est pas quelque chose que je regarde avec aigreur ou amertume. Ça a été une super belle expérience. C'est juste que voilà, il a fallu que je parte parce qu'à la fin, j'étais essoufflée. À la fin de ces presque 10 ans, du coup, j'étais essoufflée et je me sentais plus à ma place. Et j'ai insisté et c'est là que en 3 semaines, j'ai tout plaqué en fait.
Ah ouais.
Voilà.
Donc, c'est en fait t'accumules et puis après c'est craquage quoi.
C'est ça. C'est bon, du coup c'est un défaut comme une qualité parce que du coup j'ai jamais l'impression de prendre des décisions et mes décisions à moi elles sont faciles à prendre parce que je suis très instinctive, mais ça peut être très soudain pour certains et du coup ouais, c'était en 3 semaines, j'avais plus de boulot, plus d'appart, plus de petits copains de l'époque et plus de un billet d'avion et un sac à dos j'avais et c'était super.
Ah ouais.
Ouais, voilà.
Voilà. Hyper rapide quoi.
Ouais, c'était super rapide.
T'en as parlé un petit peu, mais du coup comment est-ce qu'elle était justement cette Julie de l'époque avant le fameux changement? Donc c'est il y a 3 ans, mais ça doit te paraître il y a 1000 ans quoi.
C'était il y a 3 ans. Ouais, moi j'ai l'impression que en 3 ans, j'ai beaucoup grandi en fait, en effet. Et bah comment elle était? Elle était, je me trouvais assez immature, pas forcément de confiance en moi en fait sur certains points. Je pense que je manquais d'assurance, je manquais de confiance en moi et je manquais de temps aussi en fait. C'est surtout ça en fait. J'étais vraiment aspirée par un quotidien en fait que tu te crées. Et du coup, au final, tu sais plus à la fin si ce quotidien tu l'as créé parce que tu l'as calqué à ce qui se faisait autour de toi, ou si c'est vraiment des choses que t'avais envie, si ce quotidien est composé, pardon, de choix en fait et de choses que tu as envie d'avoir dans ton quotidien. Ça, je le savais plus. Et donc avant cette grosse décision, je pense que j'étais assez perdue. Et assez perdue, en fait. Je pense que c'est le mot qui résume bien.
Et du coup, ouais, tu décides de tout quitter, boulot, Paris, amis, amour aussi, pour partir, donc ouais. Voyager. Tu pars en Asie du Sud-Est. Donc, comment ça s'est fait et pourquoi l'Asie du Sud-Est?
Alors,
je comprends.
Oui, déjà l'Asie du Sud-Est c'est une destination hyper cool parce que c'est pas cher, les gens sont sympas, la bouffe est bonne et il y a environ 1 milliard de choses à faire en Asie du Sud-Est et puis c'est assez safe. Ça s'est fait assez par hasard et je pense que je vais en reparler plus tard, mais moi j'ai une doctrine dans la vie, c'est rien n'arrive par hasard et la vie est bien faite. Et en fait j'étais amie avec un copain que je connais depuis à peu près 10 ans parce que on travaillait dans le même restaurant de fast-food à Aix-en-Provence. Et en fait, je vois sur Facebook, pile à ce moment-là, qui poste un message qui dit « Ah ben ça y est, je l'ai fait, j'ai enfin posé madame ». Enfin, exactement, c'est le contexte que je vivais, quoi. Et du coup, on se parle et on décide tous les deux de partir. Moi, je lui avais dit que je voulais partir à Bali pour surfer. Et il me dit « Bah c'est marrant, moi aussi et tout ». Et donc, du coup, on décide de partir ensemble et voilà. Pourquoi j'ai décidé de partir en Asie du Sud-Est, c'était principalement pour le surf et parce que voilà ce choix de tout changer, même si j'en ai pas beaucoup parlé durant mon introduction, et je m'aperçois que ça manque. En fait, s'il y a quelque chose qui me manquait énormément dans ma vie parisienne, c'était la connexion à la nature et la lenteur, en fait. J'ai choisi l'Asie pour pouvoir surfer et être dans l'eau toute la journée. Et en plus, voilà, c'est une destination qui est assez cool. Et pour moi, le principe de la lenteur, c'est quelque chose qu'on doit généralement plus explorer. C'est une croyance que j'ai moi aujourd'hui. Du coup, Bali, ça greffait bien à ces envies-là, tu vois, parce que c'est une île qui est assez, y a beaucoup de spiritualité en fait, et puis c'est assez paisible, quoi, comme ambiance, surtout si tu t'éloignes des grandes villes, etc. Et y a du surf partout, quoi. Y a du surf partout à Bali.
Ouais, c'est souvent une destination privilégiée pour les gens qui plaquent tout.
Oui,
qui
c'est
vont
vrai.
Souvent à Bali se ressourcer, ou ouais, effectivement, mais c'est vraiment une île à part, quoi. C'est pour avoir fait d'autres îles indonésiennes.
Ouais.
Bali, c'est vraiment un truc.
Ah, c'est un petit monde.
Il y a une ambiance, quoi.
Ouais, c'est un petit monde. Et puis, il y a une histoire, il y a une ambiance. Et puis, j'écris un article là-dessus en ce moment. D'ailleurs, je suis en train de comparer un petit peu Siargao et Bali. Parce que on dit que Siargao, c'est le Bali d'il y a 30 ou 50 ans. Mais en fait, non, moi, je dis que Bali a son histoire propre. Par exemple, il y a une ville qui s'appelle Ubud et qui est très mm-hmm. européenne, parce qu'il y a un patrimoine très riche, un patrimoine culturel très riche, parce qu'il y a eu une très forte occupation européenne par les Hollandais et une autre population européenne. Et donc tout ça, ça forme un mélange, plus la culture balinaise, qui est donc différente de la culture indonésienne, qui fait que Bali, c'est quelque chose de complètement à part, quoi.
Clairement.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un passage pour beaucoup de voyageurs, j'ai l'impression, en effet.
Oui, tout à fait. Et de digital nomade aussi.
Oui, c'est vrai. C'est une très très grosse destination de digital nomade. Il y a beaucoup d'entrepreneurs là-bas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Et du coup, on va revenir un peu. Donc, tu m'as parlé vite fait du surf.
Ouais.
Alors, t'as décidé de te mettre au surf, mais t'en avais déjà fait avant. Et pourquoi, en fait, ce sport-là? Ou alors, ça s'était venu comme ça? Tu te dis, ouais, faut absolument que je fasse du surf.
Bah, en fait, non, j'ai fait ça par hasard aussi, tu vois, c'est marrant. Mais en fait, j'avais pas forcément beaucoup d'appétence pour le surf. Quand j'étais plus jeune, où je fascinais pas ça, j'étais pas en fascination devant le surf. Moi, mon sport de prédilection, c'est la danse, en fait. Et en fait, j'ai essayé ça par hasard avec un copain un jour, et j'ai dit, il m'a dit, vas-y, essaye, tu verras, ça va être trop bien. Et en fait, ça a pas loupé. J'ai pris ma première vague et j'ai plus jamais voulu redescendre de ma planche, en fait.
Ah ouais.
Et c'était donc, c'était pile un peut-être quelques mois avant de partir en voyage, en fait. Et donc l'idée m'obsédait, et à ce moment-là, ça se passe moyen avec mon employeur. Et du coup, je dis, vas-y, fonce, t'as ce truc-là qui te donne vraiment envie, t'y penses jour et nuit là depuis que t'as essayé. Donne-toi ça comme ligne conductrice de ton prochain voyage, en fait, que j'avais planifié pour une durée d'à peu près 4 mois. J'ai choisi toutes mes destinations en fonction du surf.
D'accord, ouais. Okay, donc tu t'es dit, je vais faire un tour du monde du surf.
Ouais, à la base, je voulais l'appeler le tour du monde en 80 vagues, et je voulais écrire un livre à faire 80 vagues différentes, tu vois. Mais après, je sais que j'évolue énormément au niveau des idées, donc ça a évolué vers autre chose aujourd'hui. Mais à la base, c'était ça. Et au début, je me souviens que, ça a toujours été très aqua. Moi, je suis très très haut, quoi, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment mon élément. Et au début, j'hésitais entre ça et la plongée. Et donc, quand j'ai commencé à voyager, j'ai fait Bali. Puis après, je suis allée faire de la plongée en Malaisie. Et j'ai adoré. C'était un sentiment très très fort, quoi. J'ai fait l'île de Tioman, en fait, et qui est bien hyper sauvage. Tu connais?
Ah bah oui, c'est là, ouais, c'est là où j'ai rencontré mon copain, c'est là où c'est magnifique, quoi.
Ben moi, j'ai rencontré un garçon là-bas qui est devenu un ami, mais hyper proche, et qui est venu me voir à Siargao. On s'écrit hyper souvent. C'est un ami très proche qui je tiens énormément. Et j'ai adoré l'ambiance. Je trouve que l'île est superbe. En plus, c'est une île d'anciens pirates, en fait. Donc, l'histoire est très, très forte.
Ah, mais ça,
ouais,
je sais pas.
Ouais, c'est... En fait, tu sais, dans ce coin-là de Malaisie, t'avais énormément de piraterie et de tous ces bateaux de japonais, etc., extrêmement riches, se faisaient pirater par les pirates. Et en fait, quasiment tous les habitants de Tioman, les locaux, enfin les autochtones, sont des anciens, sont issus de familles
des descendants de pirates.
En fait. Ouais, ouais.
Génial.
Et, bon, ça n'existe plus trop aujourd'hui, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément d'épaves magnifique à découvrir sous la surface, en fait, et j'ai fait de la plongée là-bas et j'ai passé mes premiers niveaux de plongée là-bas et c'était extrêmement puissant, ouais. C'était
super beau. J'ai loupé ça parce que je ne faisais pas de plongée à l'époque, tu vois, c'est une de mes fierté entre guillemets, c'est que à cette époque-là j'avais extrêmement peur de la plongée parce que j'avais une mauvaise expérience. Et du coup, j'ai loupé la plongée à Tioman Island, alors que donc j'y étais avec des amis, et du coup, c'est là où j'ai rencontré mon copain qui en faisait. Et apparemment, c'était magnifique, mais déjà rien qu'en snorkeling, c'est déjà ouf.
Oui. Ouais.
Et après, j'ai commencé la plongée après, et vraiment là, j'ai vraiment qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi, de retourner sur cette île pour tester la plongée là-bas, quoi.
Ah, je te recommande parce vraiment. Ça fait partie des plus beaux coins de plongée dans le monde, hein. Il me semble. Ouais, je suis pas très. Du coup, je suis beaucoup moins calée qu'en surf, mais c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai pas regretté, hein. J'ai plongé, j'ai vu des épaves magnifiques, j'ai vu un petit requin à pointe noire qui faisait quand même 1m20 environ, et j'ai été hyper surprise de ma réaction, en fait. J'étais pas du tout effrayée, j'étais au contraire super fascinée par
ils sont trop mignons.
Ouais, par la bête, et j'étais pas du tout effrayée, alors que quand tu vois une espèce de tache d'1m20 accrochée là, tu vois. Tu dis, t'es à deux, je sais pas.
Qui vient vers toi.
Ouais, voilà, je sais plus à combien de mètres, j'étais à 7 mètres, je pense, de profondeur, tu vois. Tu dis, bon, c'est à moins que tu réfléchisses un peu, quoi. Et au final, non, j'étais vraiment super, fascinée. Et ouais, vraiment, c'est le mot, fascinée par...
Ouais, t'es apaisée sous l'eau, quoi.
Ouais, vraiment.
Ça, c'est vraiment, ouais. Mais l'eau, de manière générale, effectivement, alors je sais pas pour le surf, mais j'ai l'impression que l'eau, vraiment... C'est un élément hyper fort et du coup qui apaise et qui, enfin, il y a un monde à part, quoi.
Ah bah complètement, je fais des recherches là-dessus. En fait, on est composé entre 60 et 70% d'eau, et c'est pour ça qu'on se sent aussi bien quand on surfe, quand on est au contact de l'eau, quand on écoute de l'eau, quand on regarde de l'eau, quand on a un aquarium chez soi. Enfin, et on parle de surf thérapie, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement régénérant pour certaines personnes. Moi c'est complètement aujourd'hui ancré dans mon quotidien de, entre guillemets, de business, tu vois, mais parce que j'ai réussi à trouver un équilibre. Mais ça m'est arrivé d'être à l'eau, d'aller surfer parce que je suis soit j'ai un conflit avec un client, ou soit j'ai un problème et j'arrive pas à rendre un projet ou quoi que ce soit. Je vais à l'eau comme par hasard quelques heures après, ou le lendemain j'ai trouvé la solution et le problème est réglé. Je trouve ça trop marrant. Et les meilleures idées d'articles, les meilleures idées de phrases que j'ai envie d'écrire, etc., c'est toujours à l'eau, quoi. Quasiment toujours à l'eau.
Ah ouais. Non, mais je le compare à quand tu prends une douche.
Ah oui.
Quand tu prends une douche, moi j'ai toujours les meilleures idées en prenant ma douche. Alors je sais pas si c'est parce que justement tu peux pas prendre de notes, tu peux pas être dans l'action, donc t'es obligé d'être dans la réflexion. Il y a peut-être ça aussi.
Oui.
Je sais pas.
Aussi. Ouais.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, ouais.
Ouais, moi je pense que c'est de voir l'horizon, en fait. Et après, moi j'ai pas vraiment le surf social. Parce que tu vois, c'est une activité qui est quand même très sociale, le surf, mais égoïste en même temps. Si tu développes le fait que t'as la notion d'illimité de limité dans la vague, etc., et c'est une communauté assez élitiste quand même, le surf. Mais moi, je suis plutôt, par exemple, j'adore aller surfer seul. C'est une activité que je consacre que pour moi, quoi. Et du coup, en effet, le fait d'être seul et au milieu de nulle part, ça me projette, en fait, et je pense que mon esprit il s'évade, et du coup ça te débloque des situations, je pense.
Ouais. Ça, ouais. Énorme. Donc là on a parlé un petit peu du surf. Moi je voulais parler aussi de De la réaction de ton entourage, amis et famille, quand tu as décidé de tout plaquer, en fait, pour, ouais. dans un premier temps, voyager.
Ouais.
Puis, alors, tu me disais que c'était 4 mois, finalement, ça fait 3 ans. Mais tu m'as écrit quand même qu'ils comprenaient tes choix et ils acceptaient la situation, ce qui est quand même assez rare. Donc, comment ça se fait, selon toi? Comment est-ce que tu as fait, en fait, pour garder le lien?
Ah bah, c'est trop marrant, en fait, ça me fait marrer parce que je repense aux réactions de certains et du coup, ça me fait vraiment marrer parce que quand je leur ai dit vraiment comme ça, je leur ai dit, bon, les gars, et que ce soit ma famille ou à mes potes, en fait, je leur ai dit, bon, bah, ça y est, j'ai plus de travail et là, je prends un sac à dos et je pars dans 3 semaines, en fait. Et moi, je me dis, tu vas faire quoi? Je vais surfer. Mais tu vas faire quoi d'autre? Pour l'instant, je vais juste surfer, en fait. Et en fait, ils étaient morts de rire.
C'est déjà bien.
Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'était déjà bien, mais personne ne comprenait parce que, Anastasia, ce qu'il faut se souvenir, c'est que je ne savais pas surfer à l'époque.
Ah oui. Ouais. Donc, je vais essayer de surfer.
Voilà, du coup, c'était trop drôle, en fait. Et donc, du coup, la réaction, celle de mes parents, c'était, ils m'ont énormément surpris, et dans le bon sens du terme, parce que je pense que ça faisait un moment qu'ils me voyaient pas très heureuse à Paris, c'est vrai. Et du coup, je leur ai dit, alors qu'ils sont hyper, on va dire, terre à terre, mes parents, c'est des réfugiés politiques qui ont émigré en France, et du coup, pour eux, la vie, elle doit forcément être synonyme de sécurité et de oui. planification. Sauf que moi, ma personnalité, elle est pas vraiment, elle est pas vraiment ni guidée par la planification ni par la sécurité. Et du coup, je leur ai dit, je pars, j'ai plus de travail, mais j'ai mis un peu d'argent de côté et je pars, je vais, environ 4 mois d'abord, parce que j'ai fait les choses étape par étape, en fait. Et je leur avais pas dit que, pour moi, c'était
potentiellement
définitif, je leur avais pas dit. Et en plus, parce que je pense que j'avais peur de l'admettre que ça allait être définitif. Et du coup, ils m'ont tout de suite soutenu. Ça a été, mais ça a même pas, enfin, genre, même pas à l'espace d'une seconde, ils ont essayé de m'en dissuader. Et ils m'ont dit, écoute, ma chérie, si c'est ce que t'as envie de faire, vas-y, fonce et on te suit, quoi. Enfin, je veux dire, ah oui, et on te suit dans le sens littéral du terme, parce que ça faisait pas 2 mois que j'étais partie, qu'ils ont pris un billet d'avion, ils sont venus me rejoindre là-haut, quoi.
Donc, ah ouais! Donc, pas mal.
Ils m'ont soutenu, mais ils avaient envie de me voir, et je pense de me voir dans un nouvel élément, et je pense qu'ils ont ressenti que j'étais à une phase de gros changement, et je pense qu'ils avaient juste besoin de se rassurer, donc c'est pour ça qu'ils sont venus et qu'ils m'ont rejoint. Et là, je me souviens d'une conversation très forte avec mon père, parce qu'on est partis en road trip, donc tous les trois avec mes parents, à travers le Laos. On était dans une gare routière, on venait manger un petit bout de je sais pas quoi avant de prendre le bus. Et là, en fait, ça faisait à peu près 2-3 jours qu'il m'observait. Et là, d'un coup, il se pose et les punchlines de mon père, quoi, ça me fait trop marrer parce qu'il parle pas beaucoup. Et d'un coup, il me dit, bon, bah, en fait, c'est bon, en fait, je suis tranquille. Je t'ai vu évoluer là depuis 2-3 jours. On voit bien que t'as besoin de personne et je suis content que t'aies pris cette décision, quoi. Donc ça a été vachement chaleureux, en fait, comme la réaction de mes proches et mes potes. Bon, il y en a qui se sont marrés, il y en a qui ont pas cru, il y en a qui se sont dit bon, ben, de toute façon, elle va revenir à Paris et puis elle va retrouver un job et puis voilà. et puis tout cela, c'est marrant parce que je les recroise du coup tous les ans quand je rentre en France. Et là, l'été dernier, ils m'ont dit ah, c'est marrant quand même. Là, on voit un peu tes photos, ton évolution sur le surf et tout. Et c'est drôle. On pensait pas que t'en arriverais là. Et c'est cool. Et ils adorent. Et du coup, moi, je reçois énormément de retours positifs par rapport à ce changement de vie, quoi.
Ouais, ça bon, c'est voilà. C'est assez ouf, quoi, parce que c'est là, surtout la réaction des parents en général, qui ouais. est assez. Brutal quand tu... Bon, après, au bout d'un moment, ils s'habituent. Mais ouais. au début, c'est ça, ils ont besoin de sécurité pour toi, donc c'est super chouette qu'ils soient venus te voir, qu'ils comprennent que, bah voilà, tu peux gérer toute seule, c'est top, je trouve.
Ouais, alors que j'avais déjà 30 ans, mais je sais pas, tu sais, je sais pas ce que c'est que d'être parent, donc je pense que je ressentirai un jour et je le comprendrai un jour. Du coup, ouais, ils avaient besoin de ça, mais malgré leur peur, je trouve que ils ont vachement évolué avec moi aussi, et malgré leur peur, ils m'ont quand même soutenu, quoi. Et ils ont jamais montré qu'ils avaient peur, quoi. Donc
ça c'est
cool, ouais. Parce que j'étais vraiment apeurée, ouais. Ouais. Ouais, c'est bon aussi. Mais j'étais vraiment apeurée, et du coup pour donner l'autre partie de la réponse, c'est bah oui, comment j'ai continué à partager ça, c'est que en fait, j'étais très très proche, bon, je le suis toujours, mais je suis très très proche de mes proches, que ce soit ma famille ou mes potes, quand je vivais à Paris. J'avais peur de créer un trop grand écart entre ce que je vivais, moi, surtout au début de mon voyage, où j'étais vraiment émerveillée de tout, en fait. Et j'avais l'impression de créer un énorme écart entre ce que moi je vivais et ce que mes potes vivaient. Et du coup, j'ai commencé tout simplement à partager des récits de voyage sur les réseaux sociaux, en fait, Facebook et Instagram, qui étaient en mode privé à l'époque. Ma page Facebook est toujours en mode privé, mais voilà. Et du coup, j'ai vu que ça plaisait énormément, en fait, à mes proches. Et moi, ça me plaisait aussi. Et j'ai décidé de enfin suivre une envie qui était toujours en moi, qui a toujours été en moi. C'était celle d'écrire, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi d'alimenter ces projets-là et de les orienter que vers l'écriture. Et 3 ans après, donc aujourd'hui, j'arrive à vivre de l'écriture exclusivement. Je trouve que c'est assez marrant de voir qu'au final, la vie que j'ai créée aujourd'hui, enfin du moins d'un point de vue professionnel et la manière de gagner ma vie, ça vient d'une peur, et en fait de cette peur de créer d'avoir un trop grand écart avec mes proches. Eh ben, j'en ai créé un projet, et je trouve ça assez amusant, quoi, au final.
C'est génial. Ouais. Tu sais pas toi qui disais qu'il y a pas de, hasard, ou il y a pas de...
Il y a pas de hasard. Et en plus, j'ai appris que dans le surf, la peur, c'est vraiment quelque chose qui existe, en fait, et qu'il faut pas la refouler. Au contraire, il faut l'exprimer. Et c'est quand tu l'exprimes, en fait, que tu te prépares au pire, en fait.
D'accord.
Par exemple, je vais te donner un exemple dans le surf. J'avais extrêmement peur dans le surf à l'époque. J'avais peur de faire mal aux autres, de me faire mal à moi-même. J'avais peur des grandes vagues. Ouais. J'avais peur. J'ai toujours peur de la noyade, etc. Et surtout quand tu surfes des très grosses vagues, en fait, ça fait extrêmement peur. Et en fait, j'ai toujours eu peur de tout ça, et j'ai encore peur de tout ça. Mais j'ai fait l'exercice mental de le différencier de la panique, en fait. Pour moi, la peur, c'est quelque chose qui te prépare. La panique, c'est quelque chose qui te fait sombrer, quoi, qui te fait prendre les mauvaises décisions. Tandis que, d'analyser une peur et de te dire, voilà, j'ai peur de ça, mais comment je vais faire pour parer à ça, là, tu crées, en fait, naturellement, tu fais des choix qui vont t'éloigner de ça, en fait. Et j'ai un exemple très concret dans le surf. C'est que j'avais une peur bleue que mon leash, donc c'est, tu sais, le fil qui est rattaché à ta planche jusqu'à ta cheville, un jour se coince dans les rochers, en fait.
Et oui,
j'avais extrêmement peur de ça, ouais. À Siargao, c'est que du reef, donc c'est que des rochers. T'as pas de beach break, t'as pas de sable. Et un jour, mon leash se retrouve coincé dans un rocher, et il y avait, je sais pas moi, 2 mètres de profondeur, tu vois. Et vu que j'avais toujours eu peur de ça... Eh ben, en fait, ça m'a étonnée, mais j'étais pas du tout paniquée, et j'ai réussi à décrocher mon leash, mais en toute quiétude, quoi. Et en ressortant de l'eau, j'ai continué à surfer, j'en ai même à peine parlé, parce que au final, voilà, c'est une peur que j'avais, mais en l'ayant identifiée, je pense que j'ai pu prendre les bonnes décisions, en fait.
Donc tu as imaginé peut-être le scénario aussi.
Exactement.
Comment tu répondrais, en fait, à cette peur?
Et puis, pour faire écho à ce qu'on appelle, tu sais, l'analyse transactionnelle, en fait, je me suis créé un ancrage. Ça va un peu loin dans le conceptuel, là, mais en gros, j'attache, par exemple, mon leash toujours de la même façon. Ça veut dire que si le cas de figure se représente, ça veut dire que je saurai exactement le geste à faire pour me décrocher le leash de la cheville. Parce qu'il est toujours attaché de la même façon, par exemple, tu vois. Et pour parer à ça aussi, j'ai toujours les yeux ouverts sous l'eau. Ce qui me permet de juste analyser mon élément, tu vois. Si c'est encore la mousse, ça sert à rien que je me débatte, par exemple. La mousse, c'est quand c'est tout blanc et que tu tombes et que c'est vraiment tout blanc et il y a rien à, tu peux rien voir, tu vois. Il faut attendre que ça passe, en fait. Et voilà. Et donc, en créant des, ce qu'on appelle des ancrages, en fait, c'est-à-dire des situations où, que tu maîtrises et qui est rattachée à un état émotionnel de sérénité, ça fait que tu agis dans la sérénité, en fait. En gros.
Donc, tu te prépares en amont d'une éventualité en te basant sur tes peurs, donc tu utilises tes peurs pour anticiper, quoi.
ouais exactement, j'utilise mes peurs pour anticiper et surtout pour te créer des réflexes, en fait, parce que le surf, final, c'est quoi? C'est juste le surf, c'est pas que le talent, évidemment, il en faut, et moi j'admire les gens qui sont très talentueux et qui apprennent très très vite aussi, mais t'as des surfeurs qui sont aussi bons et qui ont juste fait preuve de beaucoup de travail et beaucoup de, enfin, travail entre guillemets, mais beaucoup de temps à l'eau, quoi, en fait. Et c'est ça qui a aiguisé leur réflexe, en fait, parce que le surf, c'est juste une question de réflexe. Donc, c'est beaucoup une question de réflexe. Et donc, du coup, en identifiant tes peurs, c'est comme ça que que j'ai pu, pour ma part, évoluer, parce que, les connaissant, j'ai déjà imaginé des scénarios, en fait. Tu vois, donc on a tendance à fuir les peurs, mais moi je pense qu'il faut, au plus on y pense, au plus on pense à ces peurs, et au plus on se prépare à ce qu'elles n'arrivent pas, en fait.
Je pense. C'est intéressant, ouais.
Enfin, pas pour tout, hein, mais parce que je pense que après, quand tu es coincé dans une loupe et tout, c'est pas forcément bénéfique non plus. Mais je pense que si t'as une peur, ça vaut le coup d'y penser et de passer du temps à réfléchir à ça, à écrire dessus, à, je sais pas, enfin, créer dessus.
C'est ouais, pour t'y préparer, quoi. C'est pour pas dire, bon, j'ai une peur, j'essaye de pas y penser, et puis ça n'arrivera pas. Alors que si tu y as pensé, que tu t'es un peu préparé, t'es peut-être plus serein.
Ouais, je pense,
si ça arrive, quoi. C'est un peu ça c'est un petit peu comme, il y a ça aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, et au pire, qu'est-ce qui se passe, si je fais ça, et au pire, c'est quoi la pire situation qui peut m'arriver?
Exactement.
Si je me lance, si j'ai peur de quitter mon boulot, par exemple, quelle est la pire situation qui peut m'arriver? Bon, ça peut être, je vais devoir reprendre un emploi, dans un magasin en attendant, ou je vais devoir retourner chez mes parents, puis on se rend compte que, on trouve une solution, en fait.
C'est ça. En fait, moi, je pense que quand tu te prépares au pire scénario, je pense que naturellement, au quotidien, minute après minute, tu fais des choix qui s'éloignent le plus possible de cette trajectoire, en fait. Et du coup, forcément, ton chemin, il va prendre le chemin inverse de cette peur. Tandis que si tu n'y penses pas, tu sais très bien que c'est la si tu n'y penses pas, tu n'as pas identifié cette destination-là, tu vois. Donc, du coup, moi, je pense que, quand tu commences un projet, quand t'es entrepreneur, moi, je me suis dit ça. Hein, quand je suis partie, j'ai quitté un boulot un milieu de carrière dans la tech à Paris. Je me suis dit, ce serait quoi le pire pour toi? De rentrer et puis de plus avoir une seule thune et de devoir rentrer chez mes parents, quoi. D'une part, j'ai relativisé la situation parce que je me suis dit, mais Julie, en fait, même si c'est ça, est-ce que c'est grave? Non,
ouais.
Je ne crois pas. D'une part, t'as quand même la chance de pouvoir te donner ce choix-là, en fait. Je pense que déjà, il faut remettre ça à sa place parce que on n'est pas tous nés avec la chance de voyager, etc. Donc déjà, tu devrais honorer cette chance-là. Et en plus, je pense qu'entre t'as du temps devant toi, et je pense qu'il doit exister environ un milliard de solutions différentes à explorer avant de devoir rentrer chez soi et chez ses parents complètement déprimés, par exemple.
Ouais, c'est le pire scénario, quoi. Mais évidemment, il y a 1000 autres scénarios, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question, justement, d'arrêter le voyage, de revenir en France et de revenir à ce que je pourrais dire une vie normale? Parce que tu me disais qu'au début, t'es parti pour 4 mois. Bien sûr, dans ta tête, dans un coin de ta tête, c'était pour plus longtemps. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, il va falloir que je revienne en France pour une raison ou une autre?
Oui. Alors, déjà, je me suis toujours dit que avant de commencer ce voyage, enfin, ou du moins ce changement de vie, je me suis toujours dit, enfin, je me suis toujours interdit, du coup, de me mettre la pression. Enfin, j'avais zéro objectif et zéro but à atteindre. Et du coup, je me suis toujours dit que dès que j'avais envie de rentrer, je rentrerais. Et donc déjà, j'essaie d'être là. Et non, mais c'est même pas j'essaie. Je suis là. En fait, j'arrive. Je suis là pour tous les événements familiaux ou amicaux importants, les mariages, ce genre de choses. Je suis toujours là puisque c'est important pour moi de montrer à ses proches qu'on est là. Quoi. Pour moi, la présence c'est important. Et en plus, je me suis toujours dit que voilà, je rentrerais si j'avais envie de le faire. Et ensuite, il y a une fois où je me suis posé la question. En effet, c'était alors je sais plus quand c'était. C'était avant de partir à Siargao. Je pense que ça faisait à peu près un an et demi que je voyageais. Et là, je retourne à Paris parce que j'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Et je passe du temps là-bas, beaucoup de temps. Je fais du bénévolat où je m'intéresse de très près à la cause des migrants en fait. Et du coup, je commence à refréquenter un peu le milieu professionnel que j'avais parce que je me lançais à mon compte. Et en ayant réveillé ce réseau-là, en fait, on me propose le job de mes rêves quand j'avais 20 ans, en fait, pour une start-up française. On vient me chercher et on me dit, on a ce poste-là à te proposer. Et c'était vraiment le job de mes rêves, c'est-à-dire le poste à responsabilité où j'allais être directrice commerciale de l'entreprise. Et donc je fais, j'hésite énormément, mais énormément, parce que quand je me souviens de la petite fille que j'étais, c'était vraiment le job dont je rêvais en fait. Et donc je fais tout le process de recrutement, et là je me pose vraiment la question, je me dis est-ce que je reste ou pas. Et au final, j'ai pris la décision de repartir à nouveau.
D'accord. Et comment t'as fait ce choix? Parce qu'en fait, est-ce que c'était vraiment le poste de tes rêves? Enfin, comment dire? Est-ce que c'était guidé par la peur de plus avoir cette opportunité, peut-être? Ou...
Ouais, je pense qu'en fait, ce qui me faisait... Je pense que j'ai comparé les... J'avais peur dans les deux cas. Hein, si je restais ouais. Ou si je partais. Ouais. Il y avait le fait que si je restais, c'était la peur de ne plus voir cette opportunité se représenter. Sauf qu'en fait, en y réfléchissant, je sais très bien que si jamais je me mets ça comme objectif, je le sais que je pourrais retrouver ce type d'emploi, enfin du moins voilà cette position quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être même plus la position qui me plaisait que le job en lui-même peut-être. Et ensuite, la seconde peur pour moi de partir, j'avais peur de manquer de liberté. Et de regretter de ne pas être partie. Et donc là, la décision a été plutôt facile, en fait, au final. Parce que la peur de manquer de liberté, pour moi, elle est devenue viscérale encore plus quand tu te mets à voyager, en fait. Elle devient complètement dévorante, en fait. C'est peut-être même un problème parfois, mais tu sais plus vraiment gérer avec l'absence de liberté, quoi. Là, avec le confinement, ouais. Parce qu'on est en train d'enregistrer ça, et je sais pas quand est-ce que tu vas être... quand tu vas diffuser ça, mais là, avec le confinement, c'est vraiment dur à gérer, en fait, quand t'as pris goût à beaucoup de liberté. Je suis pas en train de dire que pour les gens qui ne voyagent pas, c'est plus facile, hein, c'est pas du tout ça, mais vraiment, voilà, pour revenir à la question, j'avais peur de manquer de liberté et j'avais peur de regretter. Donc là, j'ai compris quelle était la décision à prendre, et en plus, j'avais compris que mes rêves avaient évolué, et là, c'était encore plus facile de prendre la décision et de continuer mon bonhomme de chemin, quoi.
Ouais, super intéressant. Effectivement, t'as raison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, au retour d'un voyage, se posent la question de qu'est-ce que je fais à mon retour de voyage, parce que c'est, est-ce que je vais retourner dans mon emploi, on va dire CDI, salarié, ce qui convient très bien à certaines personnes, mais après un voyage, quand t'as goûté à la liberté, c'est parfois difficile de retourner dans un endroit avec un cadre, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui du coup se lancent en freelance ou qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat.
Ouais.
Voilà, pour justement garder ce goût de la liberté, même si il y a toujours du travail, et c'est beaucoup plus de travail d'ailleurs.
Ouais, c'est beaucoup plus de travail, ouais.
Mais effectivement, t'as cette notion de liberté qui est hyper présente, quoi.
Ouais, et en fait, je le résumerais parce que tu sais, les gens qui voyagent et les digital nomades ou juste, peu importe comment on a envie d'appeler ça, il y a beaucoup de mythes, tu vois, qui se créent autour de ça. Sauf qu'en fait, la liberté, c'est pour nous, je pense qu'on pourrait la résumer assez facilement. C'est juste qu'on se choisit nos propres contraintes, en fait. Et du coup, ça te permet de voir la liberté sous un prisme qui est différent, quoi. Et en effet, ouais, je pense que c'est ma plus grande peur, moi, pour moi aujourd'hui, celle que j'ai identifiée, du moins. Je sais pas si j'en aurai d'autres ensuite, mais oui, voilà.
L'humain est composé de peur.
Ouais, en effet, on en a tous.
Donc aujourd'hui, tu habites à Surigao, donc sur une petite île aux Philippines, et tu habites depuis à peu près un an et demi, deux ans à peu près. Comment est-ce que tu as décidé de poser donc ton sac à dos ici?
Alors, c'est par rapport au surf en fait. Et toujours marrant, mais c'est toujours par rapport à ce copain dont je t'ai parlé, avec qui je suis partie à Bali il y a trois ans en fait. Et moi, entre-temps, je suis partie en Amérique centrale, je suis revenue en Europe, j'ai surfé en Europe, j'ai fait d'autres trucs. Et lui, il est après l'Asie du Sud-Est. En fait, il est resté en Asie du Sud-Est. Et du coup, il a bifurqué à Surigao. Et c'est lui qui a découvert cette île. Et du coup, il m'a dit, viens, c'est trop cool, tu vas trop kiffer, parce que c'est surf, c'est sauvage, c'est encore éloigné du tourisme de masse, etc. Et j'ai plein de copains à te présenter et donc du coup viens. Et en fait je suis arrivée et je ne suis plus jamais repartie. Je suis arrivée sans sans billet de départ donc et j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. J'ai été inspirée par tout en fait, par tout ce qui se passait à Surigao, et c'est là que j'ai officiellement donné un coup d'accélération à mes projets professionnels. C'est là que je me suis fixé des objectifs professionnels. C'est là que j'ai monté des projets locaux aussi. Et surtout que j'ai réussi à mettre en place ce dont je rêvais, surfer tous les jours. J'allais, parce que là, avec le confinement, c'est pas possible. Et en plus, y a certaines contraintes professionnelles parfois, parce que cette dimension-là a pris plus d'ampleur dans ma vie. Ces derniers mois, il y a des fois où je pouvais moins surfer, mais sinon, ici, à Surigao, je peux surfer tous les jours. Et c'était un des objectifs de vie que je m'étais fixé, quoi. De pouvoir aller surfer tous les jours.
Génial.
Et c'est une île qui est encore, moi, pourquoi je l'ai choisie, c'est parce que, déjà, en tant que femme, tu peux aller surfer, en bikini, ce qui est pas forcément possible dans tous les coins de Bali, par exemple.
En Malaisie, par exemple.
Ouais. En Malaisie. J'exclus les villes de Kuta et de Canggu qui sont, très fréquentées. Et du coup, tu peux aller surfer en bikini, mais moi, je voulais pas une destination très, très fréquentée. Et donc, j'ai choisi cette île pour ça. Et je l'ai choisi aussi pour le mélange que j'ai trouvé assez unique entre les expats et la population locale en fait, on est assez mélangé, et un lifestyle qui est très doux, qui est très lent et qui est très opportuniste, mais dans le sens du terme, c'est-à-dire que on organise toutes nos journées en fonction des heures démarrées et de la qualité des houles en fait. Donc en gros, même si on a des vies professionnelles, hein, parce que moi je mes amis travaillent, mes amis ont des contraintes, mais pourtant on se dit on se verra après le surf, tout est lié au surf en fait.
Vous adapter à ça, ouais.
Exactement. Et j'aime bien, en fait, le fait que ce soit la nature qui nous dicte comment organiser nos journées, tu vois. C'est plus trop ce qui se fait dans nos sociétés occidentales. Et du coup, moi, j'aime bien ça. Et j'aime bien cette façon de vivre les choses. J'adore le vivre, parce que je pense, sincèrement, que, si on prend un petit peu de hauteur, on a un petit peu oublié qu'il fallait qu'on arrête de faire en fonction de nos besoins, mais c'était plutôt l'inverse, tu vois, c'était plutôt voir ce qui était disponible dans la nature et faire en fonction, quoi. En fait, plutôt que de forcer, quoi. si on doit faire écho à la crise environnementale qu'on connaît maintenant, ouais, je pense que c'est un peu une philosophie à explorer, quoi, pour moi.
Ou c'est toi qui t'adaptes à la nature et pas et t'essayes pas de faire en sorte que la nature s'adapte à toi, quoi.
Ouais, vraiment, parce que je suis désolée, mais après j'espère ne pas avoir un discours moralisateur, c'est pas du tout l'idée, hein, mais je pense qu'on est vraiment allé trop loin quand par exemple qu'on t'épluche un œuf dur et qu'on le met dans du plastique, tu vois, parce que tu veux gagner du temps dans ton pique-nique. Enfin, je trouve ça absolument ridicule.
Des oranges, ouais.
Oui, ou des oranges
déjà épluchées.
Ouais, alors que t'as une ridicule peau, en fait, tu vois. Et puis, par exemple, bah, manger une papaye en plein hiver à Paris, c'est contre nature, en fait. Et du coup, je trouve que ça manque totalement de sens, en fait. Et je dis pas que j'ai une vie exemplaire, mais au moins j'y travaille. Et du coup, je me dis aussi que, tu vois, d'organiser mes sessions de travail ou mes journées en fonction de ce qu'il y a de disponible, je trouve que c'est un bon début. Enfin, du moins, c'est une bonne direction à expérimenter, quoi.
Ouais, ça fait.
J'espère.
Et quand tu vis avec la nature, t'es moins aussi dans la consommation et dans le paraître et tu vois, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu vas moins avoir besoin de compenser en allant acheter plein de choses, en sortant, en faisant des sorties excessives. Forcément, c'était sur une île.
Entièrement d'accord avec toi, parce que déjà, d'être dans la nature, ça te donne l'occasion de faire quelque chose qu'on a oublié de faire, c'était de contempler, en fait. Juste regarder. Et il y a des millions de choses, c'est infini tout ce qu'il y a à voir dans la nature. Et en fait, moi, ça me manquait vraiment, et je le savais même pas, en fait, quand j'étais dans ma vie à Paris, ça me manquait vraiment de plus avoir cette connexion avec la nature. Et quand je l'ai retrouvée, en fait, ben, je me suis aperçue que je pouvais passer des heures, en fait, juste à regarder l'horizon ou à écouter parce que je vis assez proche de la jungle, en fait, ou à écouter les bruits qu'il y a la nuit. Dans une jungle, en fait, c'est fascinant, vraiment. D'une part, ça m'apaise, et en plus, je pense que ça nous recentre, en fait. De revenir aux essentiels, et d'ailleurs, ce confinement pourra nous donner ça comme leçon, hein. C'est que la nature a repris ses droits, et on a pu voir des scènes fantastiques, comme la vue de l'Himalaya, je crois, 200 kilomètres plus loin.
Exact.
Les canaux de Venise.
Parce qu'ils n'étaient pas arrivés. Ouais, ouais.
Qui sont complètement clairs. J'ai vu passer un requin bleu dans le canal de Sète. Là, j'ai pu retrouver mon accent, comme tu as pu remarquer.
Ah oui. Le canal de Sète.
Là, quand même, j'espère que ça va nous servir de leçon et qu'on va enfin se dire, bon, bah, les gars, peut-être qu'on marche un peu sur la tête, quoi. Et je suis pas en train de pointer du doigt qui que ce soit, mais si jamais j'avais des personnes à pointer du doigt, c'est vraiment les gouvernements et les grandes organisations, parce qu'ils sont assez doués, je trouve, pour nous faire culpabiliser à prendre l'avion, alors que si tu compares genre notre empreinte carbone, par exemple, moi en tant que voyageuse, etc. Si tu compares peut-être mon empreinte carbone avec ce que certaines organisations peuvent rejeter, donc il y a une espèce de guerre, tu vois, qu'ils essaient de créer entre nous, alors que c'est pas le bon combat, je pense.
Ouais, tout à fait. Mais effectivement, c'est toute une société à repenser et qui est basée donc sur la consommation, qui est basée sur l'économie, quoi. Et ça, c'est compliqué à repenser. Et donc j'espère
compliqué,
aussi
ouais.
que va y avoir un impact. Mais franchement, on va voir ce qui se met en place. J'ai l'impression que ça se met en place tout doucement.
J'espère aussi.
Le problème, c'est qu'il faudrait que ça aille un peu plus vite, quoi.
Ouais. En fait, je pense que ça manque d'audace et un peu de courage, mais ouais, j'espère aussi.
Ouais, c'est ça. On va revenir juste un peu sur du coup ton parcours pro, parce que tu me disais qu'aujourd'hui donc tu vis de ton activité, donc tu vis de ta plume même. Comment est-ce que tu t'es lancé, en fait? Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu fais et comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans, parce que c'était pas ton boulot du tout d'origine?
Non, pas du tout. Non, c'était pas du tout. Je viens pas du tout du milieu littéraire, moi, du milieu journalistique. Donc aujourd'hui, je suis copywriter, donc concepteur rédacteur. Ça, c'est une première partie de mon travail où je travaille donc en tant que freelance, indépendant, en remote, donc en télétravail, donc à distance. Ça veut dire que je suis, pas dans les bureaux de mes clients en fait, et que je suis loin de mes clients et je ne les ai jamais rencontrés d'ailleurs pour tous mes clients. Donc voilà. Et donc ça, c'est la première grande partie de mon travail. Et la deuxième partie de mon travail, donc j'ai ce qu'on appelle les side projects, qui sont plus des projets personnels, mais qui sont finalement totalement professionnels, où là, je suis, j'apprends de façon autodidacte le métier de journaliste, et où je choisis des sujets que je décide de creuser à travers des articles ou à travers un documentaire que je suis en train de mener, mais qui est en pause en ce moment par rapport à la pandémie du Covid. Voilà, des documentaires, des articles, et que je propose à des magazines ou des journaux. Donc, c'est ainsi que j'ai pu publier un article l'année dernière sur qui s'appelle « Tout plaqué pour surfer », qui est le recueil de témoignages de surfeuses anonymes que j'ai rencontrées en chemin et qui ont donc fait le choix de changer de vie pour surfer. Et voilà, j'avais envie de parler beaucoup de la page blanche et de l'audace et du courage que ça a demandé à ces femmes-là. Et donc l'article a été publié dans Surf Session Mademoiselle, un magazine de surf que tu peux trouver en France. Et donc voilà, ça c'est la première partie de la deuxième partie de mon travail. Pardon, je sais pas si vous suivez, mais
il y a beaucoup de parties.
Bon, c'est une partie de mes projets perso, et un autre projet perso qui me tient énormément à cœur, que j'ai réussi à accoucher durant le confinement, du coup, c'est une newsletter sur le surf qui s'appelle Do It Your Swell, et qui donc parle du surf avec le plus de bienveillance possible, et qui fournit donc des articles, des témoignages, des outils pour progresser, mais également beaucoup de réflexions sur tout ce qui est lié au surf en fait, parce que le surf au final, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est plutôt une philosophie en plus d'être un sport, et du coup j'explore plein de concepts comme le déclic, comme le cook. Le cook, c'est la moquerie, enfin le nom moqueur et un peu affectueux qu'on donne aux gens qui apprennent à surfer. Voilà. Donc voilà, donc du coup j'explore toutes les facettes du surf, le féminisme, la communauté LGBT, le changement de vie dans le surf, voilà, plein de choses qui sont liées à l'aspect technique du surf ou pas, en fait, ça peut être parfois très philosophique. Et voilà, donc je travaille voilà sur ces différents projets, donc ça fait des semaines assez chargées, mais du coup ça fait beaucoup de sujets différents que j'arrive à concilier aujourd'hui.
Et du coup, comment tu t'es lancé là-dedans? Comment est-ce que tu as réussi à oser te lancer puisque tu ne viens pas de là, tu le disais.
Ouais. Alors, ça a commencé parce que j'ai voulu écrire mes récits de voyage à mes proches pour qu'ils soient au courant de ce que je vivais. Et je trouvais que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Du coup, ça a réveillé un rêve d'enfant quand j'étais plus jeune. J'étais très attirée par les lettres. Quand j'étais petite, des pièces de théâtre ou des petites nouvelles, etc. Mais je sais pas, dans ma croyance bloquante, c'était que je pouvais pas vivre de l'écriture, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai convaincue, persuadée que je pouvais pas vivre de ça, et donc du coup je me suis dirigée vers des études commerciales avec le voyage, et en réalisant, enfin, déjà en trouvant en trouvant la réponse à la question qu'est-ce que tu veux faire maintenant, je me suis aperçue que c'était ce que je voulais faire, c'était écrire, et du coup j'ai pris cette direction-là. Et concrètement, comment ça a commencé, c'est qu'il a fallu que je passe par une phase de gagner en confiance, d'oublier son syndrome de l'imposteur parce que j'avais pas fait d'études là-dedans et parce que j'avais zéro background et aucun client dans ce milieu-là. J'ai commencé par des toutes petites missions. Et où j'écrivais, c'était trop drôle, mais j'écrivais des fiches comparatives sur des tondeuses, par exemple. Enfin, c'était des trucs, c'était pas très sexy, quoi. Et en plus, c'était pas très intéressant au début. Mais du coup, j'ai commencé par faire ça, et puis après, ça a évolué vers l'inscription sur toutes les plateformes possibles et imaginables de travail en ligne, gagner confiance grâce à son premier client qui est content et qui vous fait des commandes de plus en plus régulières, et puis petit à petit de gagner en confiance tout court parce que j'ai choisi des sujets sur lesquels je me suis professionnalisée et où je suis devenue, je déteste ce mot, mais un peu experte, comme la glisse, l'avenir du travail, le digital nomadisme, le freelancing, le développement personnel, quand on fait des choix importants, tu arrives à te créer une image et surtout, des domaines dans lesquels tu es recherché, quoi, en fait. C'est comme ça qu'au final, tu arrives à avoir des clients réguliers et à gagner ta vie et à faire des choses que tu aimes, en fait, parce que tu as, t'as fait des bons choix au bon moment, je pense.
Ouais. Et je vais juste préciser une petite chose, tu vas me dire ce que tu en penses, mais parce que quand on dit, tu as gagné sa vie, on imagine tout de suite alors je ne sais pas du tout si c'est le cas ou pas, mais on imagine tout de suite qu'il faut gagner à peu près le même revenu qu'on avait quand on était salarié. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, gagner sa vie en fonction des personnes, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas du tout le même montant finalement.
Oui.
Et quand tu vis notamment sur une île aux Philippines où tu vis un peu du surf et voilà, t'as pas forcément des énormes dépenses. Donc tu peux aussi, je sais pas si toi tu fais ça, mais peut-être adapter ta charge de travail en fonction du montant que tu espères gagner. Je sais pas comment est-ce que tu vis par rapport à ça, parce que c'est vrai que l'argent, c'est toujours un truc qui fait peur, quoi.
Ah oui, totalement. Et en effet, si ce changement de vie, j'ai pu le faire et de me lancer dans le freelancing, c'est parce que j'avais un quotidien qui me permettait de le faire. Aujourd'hui, quand tu vis aux Philippines, tu t'as pas du tout les mêmes coûts de la vie quotidienne que quand tu vis à Paris, quoi. Et en plus, je trouve que c'est une assez belle leçon parce que ça m'a permis d'éliminer énormément le superflu, quoi, en fait. Cette phase-là, je l'ai faite quand je suis partie la première année de mon voyage, en fait. J'avais pas beaucoup de moyens. Et du coup, forcément, il a fallu que je revienne à l'essentiel, quoi. Et du coup, ça voulait dire prendre le bus, ce genre de choses que, au final, à Paris, je faisais pas parce que j'avais un scooter ou que je prenais un Uber qui me coûtait 20 balles, quoi, au final.
Ouais.
Sauf que moi, quand je voyageais la première année de mon voyage, 20 €, en fait, c'était le montant que j'avais pour vivre au début, quoi. En fait, pour une journée, ouais. Et donc, parce que tu as une vie qui est différente, ça te permet, en effet, de te lancer dans des projets d'entrepreneuriat où ce que tu gagnes au début, c'est-à-dire environ, je pense, entre 500 et 800 € par mois au début, je pense. Quand tu te lances, c'est que tu le fais full time, hein, de façon sérieuse, etc. Mais je pense que au début, quand tu démarres de zéro, je pense que tu gagnes ça peut-être pendant les 6 premiers mois. Enfin, moi, c'est mon analyse, hein, entre 500 et 800, je pense. Avec 500 et 800 € en Asie, ouais, tu peux vivre, en effet.
Bah oui.
En effet. Mais après, moi, je suis arrivée à une phase où j'ai d'autres projets ensuite, tu vois, où j'ai envie de construire. Je sais pas. Par exemple, j'ai des projets avec des potes. On va investir sur un terrain en Asie. J'ai d'autres projets ensuite. Enfin, tu vois, j'ai mon projet de newsletter que je voudrais faire grandir. Je veux rentrer en France dès que je peux le faire, dès que j'en ai envie, pardon. Et donc forcément, avec la maturité et la maturité professionnelle, je dis, tes 500 et 800 euros, à partir du moment où tu t'es créé d'autres envies, tu vas faire des choix ou mettre en place des stratégies pour gagner plus, pour pouvoir atteindre tes projets, en fait. Et donc, les 500 ou 800 euros, ils sont bien au début. Mais après, je te rassure, si toi, t'as décidé de les faire évoluer, tu les feras évoluer, en fait. Parce que déjà, tu deviens plus expert dans ton sujet, et donc forcément, ton taux horaire, il évolue. Et en plus, tu vas mettre en place des choses qui vont faire que tu vas gagner ta vie et suffisamment confortablement pour avoir envie de faire tes projets ensuite, tu vois.
Tu adaptes en fait ton travail en fonction de tes envies, tes projets et
ouais, complètement. Et vu que tu le fais pour toi, en fait, vu que tu le fais pour toi, moi ça me dérange pas. Moi j'ai eu des grosses périodes où je travaillais entre 70 et 80 heures par semaine parce que j'avais fait des choix, tu vois, j'avais fait des choix de d'investir sur ce client, j'avais fait les choix de sortir ce projet-là. Mais à partir du moment où toi tu fais ces choix et que tu sais très bien que en fait c'est un investissement, parce que ça veut dire que ça te rapportera entre guillemets le double ensuite, je dis entre guillemets parce que ça peut être le double de temps ou le double d'argent, tu vois, on n'est pas on parle pas que d'argent quand on fait de l'entrepreneuriat, on parle aussi beaucoup de temps. Si moi ça me débloque deux journées ensuite parce que j'ai choisi de faire un rush, j'appelle un rush, si ça me débloque deux semaines ensuite où je peux me consacrer à des projets beaucoup plus éloignés de la vie professionnelle, comme du bénévolat, comme du travail personnel sur ma newsletter par exemple, ben ton choix tu le fais mais hyper facilement en fait. Et du coup, t'es complètement en phase et droite dans tes bottes dans ces trucs-là, et tu le fais pas dans la douleur en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que l'entrepreneuriat il est vraiment vécu avec beaucoup de plaisir en fait.
Ouais, super intéressant. Je comprends complètement. Et du coup, on arrive juste sur les petites questions de fin. Est-ce que tu as un conseil que tu donnes pour aider quelqu'un à oser, justement, donc oser partir en voyage, se lancer dans l'entrepreneuriat, s'écouter, vivre la vie qu'elle a envie? Est-ce que tu aurais un conseil?
Ouais, je crois que... Enfin, j'ai mille choses à dire, mais d'une part, pour répondre à la question, je vais essayer de pas faire ce que tout le monde dit, c'est-à-dire fonce, etc., parce que ça, à force de dire, ça devient creux, tu vois. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose qui m'a vachement aidée à foncer en fait, c'était de répondre à cette question. C'était, c'est quoi ma place? Elle est où ma place en fait, tu vois? Et ma place au sein de tes relations, au sein de ta vie professionnelle, au sein de, enfin, géographiquement en gros. Et en gros, si jamais je devais donner un conseil à quelqu'un, ça serait de se poser ces questions-là. Enfin, de partir de cette question-là, elle est où ma place, pour ensuite trouver toutes les autres questions à se poser. Parce qu'en fait, ce qu'on a tendance à ne pas savoir quand on fait des changements de vie, c'est qu'il y a plein de nouvelles questions qui vont apparaître en fait. Et ça, c'est comme quand tu crées un projet, que ce soit le projet d'un entrepreneur ou pas. En fait, quand tu fais quelque chose de nouveau, il y a plein de questions dont tu ne soupçonnais même pas l'existence qui vont apparaître. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pose-toi la question, en gros, elle est où ta place, c'est-à-dire où est-ce que tu as envie d'être, quoi. Et de là, tu fais les ramifications avec tous les sujets qui sont importants dans ta vie, quoi. En gros, au niveau professionnel, au niveau, est-ce que t'as envie d'être entrepreneur ou plutôt salarié? Est-ce que t'as envie d'être en couple ou pas? Est-ce que t'as envie d'être entouré ou pas, de beaucoup d'amis ou pas? Et est-ce que t'as envie d'être à la mer ou à la montagne, quoi? Et je pense qu'avec cette question au centre d'une map, ça peut te donner pas mal de réponses. Et du coup, ça peut te donner l'occasion de te rapprocher de ces envies-là. Quand tu les poses, en fait, tu te ça, généralement, quand tu y penses, elles te quittent plus ensuite, quoi. Quand c'est des vraies envies, en fait. Pour répondre à ta question, dans le fait d'oser, c'est qu'il faut réapprendre à écouter son instinct, en fait. En fait, notre instinct, il nous donne plein de codes, de petits indices qui sont pas forcément faciles à décrypter quand on a plus l'habitude de le faire, quand on n'est plus à l'écoute de ça, en fait, et quand on est trop rationnel, en fait, quand on est trop raisonné, excuse-moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et parfois, les choix qu'on fait, ils sont parfois inexplicables. Mais souvent, moi, les choix inexplicables que j'ai faits, c'était souvent les meilleurs, quoi, en fait. C'était souvent les meilleures décisions que j'avais prises, quoi. Quand j'ai jamais trop su expliquer, hein, que je voulais partir à l'autre bout du monde et que je voulais plus jamais rentrer à Paris. Mais pourtant, pour moi, c'est la décision qui a marqué le plus gros tournant de ma vie, quoi. Donc, je dirais que ouais, il faut vraiment réapprendre à écouter son instinct, quoi. Et que généralement, si on a une petite intuition, c'est qu'elle vient pas de nulle part et qu'il faut l'alimenter, quoi. Il faut l'écouter, en fait. C'est juste se dire ok, qu'est-ce que t'es en train de me dire.
Ouais, ça c'est pas forcément facile, mais
c'est pas facile.
Faut prendre le temps, c'est ça.
ouais, on y arrive.
Et du coup, j'ai deux petites questions de fin. Donc la première, c'est est-ce que tu penses parfois au futur, et comment est-ce que tu t'y projettes, et qu'est-ce que t'imagines, en fait, de ton futur? Ton futur, c'est genre, dans 10 ans. Cette question horrible, ouais, des entretiens d'embauche.
Ouais, bien sûr, j'y pense, c'est normal. Je sais pas si on le fait tous, mais moi, oui, j'y pense, parce que ça me donne des trajectoires, tu vois. Mm-hmm. Je me vois comment? Pas trop, trop différente d'aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire que, j'espère que je me sentirai toujours autant libre dans mes choix, soit géographiques, en termes de localisation ou même professionnels. Bah, j'espère que j'aurai toujours cette faculté-là de choisir les bonnes relations, c'est-à-dire je pense que j'ai de la chance aujourd'hui d'être super bien entourée, mais je pense que ça c'est aussi issu de choix que tu fais au quotidien, je pense. J'espère que j'aurai toujours cette aptitude-là à choisir les gens qui m'entourent. Voilà, si je devais résumer, c'est j'espère que j'aurai le choix sur tous les domaines comme je l'ai aujourd'hui.
Tout à fait. Je plus sois, évidemment. et du coup, la dernière question, qui est la question un petit peu récurrente de ce podcast, puisque le podcast s'appelle De Vraie Vie. Donc, qu'est-ce que tu imagines, en fait, qu'est-ce que ça signifie pour toi, la vraie vie?
La vraie vie, pour moi, ça veut dire se donner l'occasion de croire à ses rêves, en fait, même si on peut pas tous les réaliser, mais au moins d'essayer, en fait, de se dire qu'il y a des choses qui sont parfaitement possibles. Ça, je pense que c'est déjà une bonne piste pour vivre une vraie vie, quand tu te rapproches de tes rêves et que tu les réalises. Je pense que c'est pas mal. Et ensuite, moi, j'accorde énormément d'importance aux valeurs. Et si tu essaies de concrétiser des rêves et qu'en plus tu t'es jamais éloigné de tes valeurs, celles qui sont intrinsèquement liées à toi, ben moi, je pense que tu vis une vraie vie. Et donc, du coup, peu importe que ce soit en ville, à l'autre bout du monde, entouré ou pas, si t'arrives à faire ça, je pense que t'as tout compris, quoi.
Super. Merci beaucoup, Julie. Où est-ce que on te contacte, si où est-ce qu'on peut suivre tes aventures, ta newsletter, etc.
Titre qui va sortir bientôt, qui s'appelle Do It Yourself. Donc ça s'écrit doityourswell.com. C'est un peu long.
je mettrai le lien dans la description.
C'est ce que je me suis dit au moment où je t'ai épelé le nom.
Parce que là,
c'est un peu long, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais du coup, oui, donc Do It Yourself, il y a le site internet qui va sortir dans pas longtemps. Sinon, il y a une page Facebook, un compte Instagram, et si on veut me parler de surf, c'est à ce niveau-là. Et ensuite, si on veut me parler de questions un peu perso, c'est plutôt sur mon profil Instagram perso que je réponds. Voilà.
Ok, super. Merci beaucoup.
Je t'en prie, Anastasia.
Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de De Vraie Vie. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale, je t'invite à me le dire en me laissant quelques étoiles et un commentaire. J'adore ça, les commentaires. Sur ton application de podcast préférée. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux me suivre sur Instagram @devraievie. Je te dis à très bientôt.